Radio. Campus. Paris. Il est 19h.
Soir. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Freaks. Campus.
Subhumans. Newtons. Mucho bizarre, homeland of the freaks. C'est une fois par mois sur les ondes de Radio Campus Paris 93.9 ou radiocampusparis.org.
Radio Campus Paris.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez écouté en avant-première un petit teasing de nos différentes émissions. Donc n'hésitez pas à aller les écouter. Et ce soir, on est sur la matinale de 19h. Vous êtes sur Radio Campus Paris. Et c'est tout de suite.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
La Cannes 2026, c'est fini. Et au terme d'une compétition intense, c'est le Sénégal qui a été sacré champion d'Afrique face au Maroc, pays hôte de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur le terrain, mais aussi loin des stades, cette Cannes a fait vibrer des millions de supporters, à Paris notamment. Les Lions de l'Atlas, comme toutes les équipes engagées, ont rassemblé une diaspora fière, bruyante, colorée, profondément attachée à ses racines. Une fois encore, le football s'est imposé comme un puissant trait d'union entre les peuples, un espace de joie collective, de reconnaissance et d'expression. Mais toutes les diasporas ne peuvent pas se retrouver dans la célébration, malheureusement. La diaspora iranienne, elle, est ailleurs. Elle lutte, elle témoigne, elle tente de créer des liens autrement, par la culture, par la parole, par le cinéma indépendant aussi. Ici, à Paris, le cinéma indépendant lutte avec notamment l'incroyable réouverture du cinéma indépendant La Clé à Paris, une belle histoire où le public a permis de financer l'achat du cinéma. Alban Barreau est avec nous ce soir sur Radio Campus pour en parler. Cette répression des libertés culturelles et politiques fait écho à d'autres réalités. En Tunisie, depuis 2021, la répression est implacable. Journalistes, opposants, intellectuels sont ciblés ce soir au micro de Félix, l'essayiste Atem Nafi, auteur de notre ami Kaï Saed, essai sur la démocratie tunisienne, paru en 2024 aux éditions Rive-Neuve, et chercheur auprès du centre de recherche indépendant Noria Research, sera là pour nous en parler. De stade en liesse aux salles obscures sous surveillance, des cris de victoire au silence imposé, ces événements nous posent une question essentielle. Que reste-t-il au peuple quand les lieux de célébration, de culture et de débat deviennent des espaces de contrôle? Et comment les diasporas peuvent-elles, depuis l'exil, continuer à faire vivre la liberté? Et au sommaire aujourd'hui, alors nous sommes ensemble pour cette émission de la matinale de 19h. Donc comme je l'ai dit, nous aurons comme invité Atem Nafi, essayiste au micro de Félix. Ensuite, nous enchaînerons avec le Zoom. Fabien questionnera Alban Barreau par rapport à la réouverture du cinéma indépendant La Clé. Ensuite, Jeanne nous fera le Flash Info. Tom Chadefaux sera là pour la chronique Actu. Et enfin, on termine avec une chronique libre qui parle de cinéma au micro d'Eloane.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Il y a 15 ans, presque jour pour jour, le 14 janvier 2011, le régime de Ben Ali chutait dans une ferveur rarement égalée en Tunisie, signant par là le début de ce mouvement que l'on appellera bien volontiers les printemps arabes. Cette révolution, emportant avec elle l'espoir de millions de Tunisiens fatigués par un régime que l'on croyait éternel. Mais c'est bien le propre de ces régimes, c'est de se croire éternel jusqu'au dernier quart d'heure. Pour reprendre vos termes, monsieur Hafti, bonsoir.
Bonsoir.
Essayiste, chercheur auprès du centre indépendant Noria Research, vous avez signé en septembre 2024 notre ami Kaïs Sayed, essai sur la démocrature tunisienne aux éditions Rive Neuve. Ce livre est paru un mois avant la réélection de Kaïs Sayed le 6 octobre 2024 avec plus de 90,69% des voix dans un contexte d'abstention massive. Et force est de constater que Kaïs Sayed n'est pas forcément un ami qui nous veut du bien, ou en tout cas qui veut du bien à la Tunisie tant il règne. Depuis 2019, en maître incontesté, muselant la presse, l'opposition, concentrant les pouvoirs et errant tel un fantôme dans son palais de Carthage, publiant des décrets-lois sur Facebook. Dans ce livre, vous cherchez à comprendre finalement la personnalité de Sayed, comment est-ce qu'il met en place son gouvernement, et nous allons parler de tout ça ce soir avec cette conclusion. Les autocrates souvent prospèrent dans les interstices de nos démocraties. Et cela sonne comme un avertissement pour nos démocraties, justement. Alors ma première question, monsieur Hafti, pouvez-vous nous expliquer en quoi le régime développé par Kaïs Sayed est une autocrature ? Vous choisissez ce terme-là, alors qu'on pourrait peut-être parler de populisme autoritaire ou d'hyper-président.
Je me permets deux petites rectifications. Bonsoir, donc c'est monsieur Hafti, et c'est une démocrature et pas une autocrature. Que je décris après avoir décrit un populisme autoritaire dans un précédent livre. Le terme démocrature, si vous voulez, c'est un terme assez vague ou qui permet en tout cas de mettre des réalités. C'est un terme générique qui recouvre plusieurs réalités. On parle souvent de la Russie, de Vladimir Poutine, de la Hongrie, de Viktor Orban, d'Erdogan, même sous certains aspects, on pourrait s'intéresser, y compris à notre chère 5e République. Là, ce que je dis, et en quoi tous ces régimes peuvent converger, c'est que nous avons encore des procédures. La démocratie est réduite à son stade procédural, à savoir des élections qui se tiennent à intervalles réguliers, qui ne sont pas directement, en tout cas, trafiquées, mais où toute possibilité d'alternance est fortement entravée par un contrôle des médias, par un contrôle de la justice. Et donc, c'est en cela qu'on parle de démocrature. Comme vous l'avez bien indiqué, mon livre est sorti quelques jours avant l'élection de 2024. Aujourd'hui, je crois que je parlerai plutôt d'un despotisme des plus classiques, étant donné qu'on est allé jusqu'à, en tout cas, trafiquer les élections en amont, en interdisant à des personnes qui étaient dûment mandatées et dûment autorisées à y participer, en leur interdisant de se présenter. Donc malheureusement, on est allé un cran au-dessus en Tunisie.
Très bien, mais une question s'impose, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Est-ce que finalement on peut essayer de remarquer que Kaïs Sayed est un certain produit de la révolution de 2010-2011 et de la décennie noire qui s'en suivit ? Vous expliquez quand même toute cette décennie noire avec cette instabilité politique chronique. Donc est-ce qu'on peut affirmer que finalement Kaïs Sayed est le produit de cette révolution avortée ?
Oui, tout à fait, c'est vraiment l'enfant de cette révolution, d'autant que Kaïs Sayed, avant cette révolution, il n'avait pas véritablement d'engagement politique, ce n'était pas un opposant, ce n'était pas non plus un potentat du régime. Donc sa carrière politique, il doit tout à cette révolution, à ses aspects positifs, c'est-à-dire à la liberté d'expression, à la liberté d'association, de réunion, ce qui lui a permis de se constituer une audience. Mais également, donc, il a travaillé ou il a su séduire les déçus de cette transition démocratique. Donc, je parle de décennie noire pour critiquer ce terme-là, surtout que voilà, la Tunisie est voisine de l'Algérie. Et quand on dit décennie noire en Algérie, ça revêt une réalité qui me semble beaucoup plus parlante qu'une transition démocratique. d'un pays qui n'était pas prêt à cette révolution. Hein. Et donc, il y a eu des aléas, il y a eu de la mauvaise gestion, il y a eu... voilà, on a pu voir peut-être le meilleur de la politique, à savoir des libertés publiques, mais on a également vu du terrorisme, on a vu de la mauvaise gestion. Et c'est un petit peu le ras-le-bol des personnes et des citoyens, le désintérêt de la politique qui a fait que Raïs Saïd se fasse élire à la loyale en 2019. Et après, donc deux ans après être arrivé au pouvoir, perpétrer un coup d'État et transformer son régime en régime despotique. Aujourd'hui, c'est le terme que j'emploierai. Mais oui, pour répondre à votre question le plus simplement possible, il est le produit des déceptions et peut-être de toutes ces de tout ce qui n'a pas marché dans la décennie noire. En ayant profité de tout ce qui a marché dans cette décennie noire, entre guillemets, évidemment, je ne reprends pas le mot à mon compte.
Et justement, apparaît un paradoxe parce que Kaïs Saïed est donc professeur de droit. Oui, il était professeur de droit. Et vous insistez aussi sur ce concept de juridisme qui est très important en Tunisie. Et on voit que finalement, il a utilisé la norme légale pour asseoir son pouvoir despotique.
Si vous me permettez un mauvais jeu de mots, il a utilisé la loi et la règle de droit pour asseoir son droit avant de s'asseoir sur la règle de droit. On enseigne en première année de droit ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Et Kaïs Saïed, qui a enseigné ça pendant 30 ans à ses étudiants, a abrogé une constitution par un décret présidentiel. Évidemment, un élève de première année d'école de droit serait choqué par ça, surtout les élèves de Raïs Saïd qui ont appris ça, parce qu'il enseignait le droit constitutionnel à tous les élèves de première année de son école. Donc il a un petit peu joué avec le droit, aussi sur la méconnaissance du droit par le grand public, pour faire des choses qui ne sont absolument pas légales. Et aujourd'hui, même les lois qu'il promulgue, même sa propre constitution qu'il a imposée, il ne la respecte pas. Par exemple, dans tout ce qui est contre-pouvoir, sa constitution prévoit une cour constitutionnelle. Elle n'existe toujours pas, alors qu'elle aurait dû être mise en place depuis 4 ans. Donc voilà, il joue un petit peu sur les deux tableaux. Il est vu comme un enseignant de droit intègre, or il viole le droit, mais allègrement, depuis qu'il s'est emparé du pouvoir.
Et pour les auditeurs et auditrices de Radio Campus ce soir, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous dresser peut-être un portrait de cette personnalité énigmatique, comment un professeur de droit arrive à complètement bouleverser ce qu'il enseigne pendant plusieurs années? Est-ce que... On a un petit portrait peut-être psychologique de cette personnalité?
Oui, c'est une personnalité, c'était quelqu'un de vraiment apprécié par ses étudiants, y compris les personnes qui aujourd'hui s'opposent fortement à lui. C'est un enseignant proche de ses étudiants. Alors le mot professeur aussi est sujet à caution, étant donné que dans l'enseignement supérieur, c'est assez codifié. C'est quelqu'un qui n'a pas eu son doctorat, et je pense qu'une partie du problème vient de là, c'est-à-dire qu'il était marginalisé dans son école par des collègues qui ont mieux réussi leur carrière professionnelle, et aujourd'hui, il tient un petit peu sa revanche. Donc il y a vraiment cette question de la revanche est très importante, parce que lui-même tient sa revanche contre des élites qui l'ont peut-être sous-estimé pendant des années. Hein. Il a enseigné dans une école... l'école qui forme les élites juridiques et politiques du pays, donc une école quand même assez cotée, assez bien vue dans le domaine du droit et des sciences juridiques. Donc il tient sa revanche et je pense qu'il charrie un sentiment de revanche. Des sentiments de revanche, c'est une thèse que je défends dans mon livre. Toutes les personnes qui en veulent justement à cette transition démocratique qu'ils ont rebaptisée en décennie noire se retrouvent dans Raïs Saïd. Que ce soit les personnes d'ancien régime qui ont estimé que cette démocratisation était synonyme d'islamisme, de chaos, de terrorisme et de corruption, sont bien contentes que Raïs Saïd qui se revendique de cette révolution mette un terme à son côté, on va dire, libéral, à son côté ouvert. Des personnes qui ont cru en la révolution et qui ont été déçues par les politiques, les personnes, parce que je rappelle que la révolution était partie d'un mouvement social sur une situation socio-économique que personne n'a réussi à juguler. Donc là aussi, les personnes qui sont quelque part déçues se retrouvent dans Caïs et Sarajevo. Et puis ils jouent sur d'autres travers comme le mépris de classe, les différentes divisions de la société tunisienne, le rapport entre le centre et la périphérie, le rapport entre les côtes et les régions intérieures. Tout cela, il le nourrit. Et donc, beaucoup de groupes qui sont peut-être opposés les uns aux autres se retrouvent autour de sa personne pour tenir une revanche contre quelque chose. Et ce quelque chose, c'est cette décennie post-révolutionnaire au Printemps Noir.
Merci. Alors, on va faire une petite pause musicale pour continuer cette discussion avec vous, Atem Nafti. On écoute tout de suite Paolo Conte, Via Comme.
Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips, do 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 do, chibum chibum, do 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 do, chibum chibum, do 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 do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do, chip, chip, boom. Do 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 do, chip, chip, boom. Do 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 do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do. Chibum, chibum, boom. Do 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 do. Chibum, chibum, boom. Do 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 do.
C'était Paolo Conte, Via Conme. On est toujours sur Radio Campus Paris, la matinale de 19h. Et on continue notre discussion avec Félix.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Alors, monsieur Nafti, pour continuer dans cette discussion sur la figure de Raïs Saïd, je crois que le slogan présidentiel qu'il avait utilisé, c'était « Le peuple veut et il sait ce qu'il veut ». Je parle sous votre contrôle. Mais est-ce qu'il y a vraiment un fondement idéologique dans le programme mis en place par le gouvernement tunisien à l'heure actuelle ?
Alors, il n'y a pas une idéologie à proprement parler. Il y a du populisme, justement, ce slogan « Le peuple veut », c'est vraiment la quintessence du populisme, c'est-à-dire considérer qu'il y a un peuple homogène, uni et intègre contre des élites qui sont corrompues. Donc il y a une première étape, il y a cette idéologie qui est le populisme. Après, on va retrouver des idées qu'on classerait à gauche en économie, c'est-à-dire que vous allez trouver une critique du néolibéralisme, une critique de la mondialisation telle qu'elle est actuellement, peut-être aussi quelques accents conseillistes qui font qu'une partie de l'extrême gauche continue à soutenir Kaisari. Mais également des choses qu'on classerait à droite, voire à l'extrême droite, un conservatisme sociétal totalement assumé, et surtout ce qui est peut-être ce qu'on a découvert aussi, c'est cette théorie du grand remplacement que Kaiser reprend à son compte, à savoir qu'il y aurait un complot pour installer des populations noires qui remplaceraient les populations arabo-musulmanes en Tunisie. Donc vous voyez, on peut retrouver plusieurs, on va dire, sources et plusieurs idéologies qui guident ce président de la République. Après, ce n'est pas un grand idéologue, c'est quelqu'un qui a très très peu écrit. Donc on pas parler véritablement d'une idéologie saïdienne. Il y a voilà des influences des personnes autour de lui et lui-même étant voilà quelqu'un de plutôt conservateur, très réactionnaire.
Et justement, donc pour revenir sur cette utilisation des complots que vous qualifiez de véritable mode de gouvernement, je crois que fin novembre 2025, on a eu le résultat d'un méga procès pour complot contre la sûreté de l'État. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur ce méga procès et en quoi est-ce qu'il est caractéristique finalement du mode de gouvernement de Kais Saied?
Alors, sur l'utilisation du complot, très vite, on s'est rendu compte que Kais Saied expliquait à peu près tout par le complot. Donc, la crise économique serait le fruit d'un complot. On a eu des choses même qui pourraient paraître anecdotiques. La tempête, il y a eu une tempête qui a ravagé les côtes libyennes qui s'appelait Daniel. On a tout un système pour nommer les ouragans et les tempêtes. Et Kais Saied voyait dans le nom Daniel, donc une tempête qui a ravagé un pays musulman, la puissance du lobby sioniste. Donc on a quand même des choses qui pourraient paraître anecdotiques. Mais plus généralement, il explique tout par le complot. Donc il n'assume jamais sa responsabilité. Et la théorie du complot crée une sorte de système parce qu'à chaque fois elle va désigner une nouvelle cible à la vindicte populaire et donc ça lui permet de se débarrasser d'un groupe qui le gêne. Et ce procès pour le complot contre la sûreté de l'État, qui n'est absolument pas le seul, hein, on a arrêté de compter, mais on est arrivé à documenter 15 ou 16 procès ou enquête pour le complot contre la sûreté de l'État, ce qui, pour un pays qui n'est ni en guerre, ni en affrontement, en particulier avec une partie du monde, donc c'est un pays qui est plutôt ami avec tout le monde, semble un petit peu étonnant qu'on voit des complots partout. Et ce procès, voilà, ça a commencé en février 2023. Des opposants ont été arrêtés, on ne savait pas trop pourquoi au début. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'on arrêtait des gens et par la suite, on a commencé à leur trouver des chefs d'accusation pour alors le discours officiel, c'est il y aurait eu un grand complot ourdi à la fois par des personnalités politiques, par des personnalités liées aux islamistes et des personnalités liées au monde des affaires. Et tout ce beau monde, hein, donc il y a les 35 personnes qui ont été condamnées définitivement, donc en appel, tout ce beau monde aurait comploté contre le pays et contre le président de la République. On a utilisé la loi antiterroriste. On reproche à ces gens d'avoir, une partie d'entre eux, d'avoir contacté des ambassadeurs étrangers. Même ambassadeurs qui n'ont absolument pas ni été auditionnés, ni été expulsés, ni rien du tout. Donc ça en dit long aussi sur la vacuité des accusations. Et puis quand vous lisez, donc moi je consacre un chapitre de mon livre à ce procès, parce que vraiment, il représente tout l'état de ce régime. On voit des allusions à la franc-maçonnerie, des choses, mais totalement incohérentes. Et on voit en réalité que le président a décidé de se débarrasser d'une partie de ses opposants. Il ne s'en cache même pas, c'est-à-dire que face caméra, il a menacé les juges qui oseraient innocenter les personnes qui ont été arrêtées. Donc on a des personnes qui ont été arrêtées à 3 ans, qui, pour la plupart d'entre elles, ont été condamnées à de très lourdes peines de prison, dans un procès qui en réalité ne s'est jamais tenu, parce que la plupart des accusés ne se sont même pas expliqués face à leurs juges. Et donc, en fait, c'est un procès politique qui illustre aussi un point très important, peut-être qu'on devrait aborder, c'est la mise au pas de la justice. Parce que Reichsheit, quand il fait son coup d'État, l'une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il casse toutes les garanties d'indépendance de la justice. Il se met vraiment on dit souvent, pour désigner un président de la République, en magistrat suprême. Il devient littéralement le magistrat suprême, décidant des peines de prison, décidant de poursuivre un tel ou un tel. Et donc, on est très, très loin d'un paradigme démocratique ou même de la simple des garanties minimales d'un état de droit.
Et pour revenir peut-être sur la place de la Tunisie dans le concert des nations, on le voit donc avec cette idée de cinquième colonne que seraient les immigrants subsahariens et cette idée de lutte contre l'immigration illégale. En quoi justement cette immigration illégale est-elle instrumentalisée par le régime tunisien dans ses rapports notamment avec les pays étrangers? On pourrait citer la France et Emmanuel Macron qui a qualifié Kais Saied de son ami, même le gouvernement italien avec Giorgia Meloni. En quoi justement, et la signature aussi pardon, d'un mémorandum entre l'Union européenne et la Tunisie, en quoi justement la Tunisie et le régime utilisent justement l'immigration illégale au niveau international?
Alors, si vous voulez, la question migratoire n'est pas nouvelle et n'est pas née avec Kais Saied. On ne peut jamais aller contre la géographie, comme on dit. Donc, la Tunisie est l'un des pays nord-africains les plus proches de l'Italie, donc l'Italie, de l'Europe. Et donc, il y a toujours eu ce qu'on appelle la route centrale entre la Tunisie et la Libye. Il est assez facile d'atteindre les côtes italiennes et maltaises. Donc il y a toujours eu une filière d'immigration qui passe par là. Ce qui s'est passé, c'est que Kais Saied a, d'une part, il a, parce que la Tunisie, je le rappelle aussi, n'a pas de frontières avec les pays d'Afrique subsaharienne. Donc pour que des migrants atteignent clandestinement la Tunisie, ils passent obligatoirement par l'Algérie ou la Libye. Donc la Libye est déstabilisée, l'Algérie est en train de totalement vassaliser la Tunisie, donc les autorités algériennes laissent passer des migrants. Kais Saied n'y peut pas grand-chose, ne peut pas s'opposer au régime algérien qui aujourd'hui est l'un de ses principaux soutiens. Et de l'autre côté, bien se faire voir des Européens pour qui la question migratoire, je ne vous apprends rien, est devenue centrale dans le débat public, donc accepte d'être le garde-frontière de l'Union européenne, singulièrement de l'Italie. Et donc, le résultat de cela, c'est que vous avez des flux entrants que vous ne pouvez pas maîtriser et vous interdisez les flux sortants. Ben, mathématiquement, il va y avoir de plus en plus d'immigrants. Et derrière, ben, la théorie du complot permet de se décharger, de se défausser sur ces pauvres migrants et de dire qu'ils font partie d'un grand complot. Et l'Union européenne ferme les yeux tant que ces frontières, donc je donne un chiffre, entre 2023 et 2024, donc un an après la signature du mémorandum, les arrivées en Italie en provenance de Tunisie ont chuté de plus de 70%. Ce sont quand même des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Et donc c'est pour cela que les Européens continuent de soutenir Kais Saied, qui lui déroule un tout autre discours, hein, qui se vend comme altermondialiste, avec des accents très anti-occidentaux, mais en réalité, si on regarde froidement la situation, Kais Saied a davantage ancré la Tunisie dans le bloc occidental qu'il ne le laisse croire.
Je vous remercie, Atem Nafti. On termine maintenant notre discussion sur Kay Saïd avec votre essai, notre ami Kay Saïd, essai sur la démocratie tunisienne. Je vous remercie encore d'avoir été avec nous. Merci à toi, Félix. Mmh. Et puis tout de suite, c'est le Flash Info avec Jeanne.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Je crois qu'il n'y a pas de virgule. Bonsoir Farah, bonsoir à nos auditeurs et auditrices. Dans l'actualité aujourd'hui, en France tout d'abord, le Premier ministre Sébastien Lecornu a décidé d'engager la responsabilité de son gouvernement en utilisant l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget 2026 après 3 mois de débat au Parlement. En réaction, la France Insoumise et le Rassemblement National ont annoncé le dépôt de motions de censure. L'issue finale dépendra désormais des votes sur ces mentions qui pourraient conduire soit à l'adoption du budget, soit à la chute du gouvernement. Les inscriptions sur Parcoursup se sont ouvertes ce lundi 19 janvier pour les élèves de terminale et les étudiants en réorientation. Près d'1 million de candidats pourront choisir parmi 25 000 formations et formuler jusqu'à 10 vœux avant le 12 mars. Le ministre de l'Enseignement supérieur appelle les candidats à élargir leurs choix, notamment dans les filières très demandées, et se veut rassurant. L'an dernier, 98% des lycéens généraux ont reçu au moins une proposition. Une procédure jugée toutefois stressante par une large majorité de lycéens, pour laquelle des dispositifs d'accompagnement seront mis en place. Puis à l'international, un grave accident ferroviaire a fait au moins 39 morts et 123 blessés dimanche dans le sud de l'Espagne. 2 trains à grande vitesse sont entrés en collision après le déraillement des derniers wagons d'un d'entre eux. Ces derniers ont percuté la tête d'un autre convoi circulant en sens inverse. Parmi les blessés, 5 sont dans un état très grave. Plus de 400 passagers se trouvaient à bord des 2 trains. Les secours confrontés à une zone difficile d'accès ont été renforcés par l'armée et un hôpital de campagne a été installé sur place. Au Portugal, l'extrême droite se qualifie pour la première fois pour le second tour de l'élection présidentielle. Son candidat, André Ventura, affrontera le socialiste António José Seguro lors du scrutin décisif prévu le 8 février. Ce résultat confirme la progression de l'extrême droite, déjà devenue principale partie d'opposition aux dernières législatives. Dans un pays marqué par une forte instabilité politique, les électeurs restent confrontés à la crise du logement et à un faible pouvoir d'achat, malgré un taux de pauvreté au plus bas depuis 20 ans. Et enfin du sport, le Sénégal remporte la Coupe d'Afrique des Nations en battant le Maroc 1-0 après prolongation hier soir à Rabat. Les Sénégalais se sont imposés grâce à un but de Pape Gueye à la 94e minute au terme d'une finale très tendue et marquée par de vives controverses arbitrales. Le Maroc a manqué un pénalty décisif dans le temps additionnel, tandis que les Sénégalais avaient quitté le terrain juste avant pour protester la décision de l'arbitre. Déjà vainqueur en 2022, le Sénégal décroche ainsi sa 2e CAN, tandis que le Maroc, favori et soutenu par son public, voit une nouvelle fois le titre lui échapper. Ça pique encore, Jeanne. Merci de remettre le couteau dans la plaie. Je place quand même un Dima Mré parce que même si on a perdu, cette canne était incroyable. Eh bien, après ce flash info, on retrouve Tom et sa chronique actu. Mais avant ça, une petite pause musicale. On s'écoute tout de suite Fish and Tell de Kerito.
Bonsoir Farah et bonsoir à tous. Cette semaine démarre sur une actualité internationale très chargée entre les manifestations violemment réprimées en Iran, l'accord de libre-échange signé avec le Mercosur ou encore la suite des événements entre le Venezuela et les États-Unis, mais surtout avec les déclarations de Donald Trump qui sont de plus en plus flippantes semaine après semaine, et notamment avec le Groenland, car le 47e président des États-Unis d'Amérique souhaite ardemment annexer ce territoire danois situé en Arctique. Ce n'est pas nouveau que le pays lorne sur le territoire du pôle Nord, même avant Trump, et celui-ci avait déjà émis le souhait de l'acquérir à l'époque de son premier mandat en 2019 par l'achat, une méthode bien différente par rapport à celle actuelle. Trump qualifie cette acquisition potentielle comme une nécessité absolue pour la sécurité nationale américaine, et comme on l'a bien compris ces derniers jours, après la capture de Maduro, il n'exclut pas le recours à la force militaire. Pour être bien précis, le Groenland, c'est un territoire de 56 000 habitants, recouvert de glace, gros comme 4 fois la France. Il appartient techniquement au Danemark, malgré une certaine forme d'autonomie, et est donc indirectement un territoire de l'OTAN. Ce territoire a une importance stratégique et économique majeure, comme Trump l'a bien compris. Il contient des terres rares, des métaux critiques et de l'or. C'est aussi un territoire qui a une importance sécuritaire, notamment au niveau des routes maritimes. Les USA ont la seule base militaire qui existe là-bas. Le Danemark s'y était ouvert à l'époque. De plus, en octobre 2025, le pays avait annoncé un investissement de 4,2 milliards de dollars pour répondre aux exigences de Trump quant à la sécurité au Groenland. Et puis depuis deux semaines, Donald Trump menace ainsi de vouloir s'emparer du territoire à coups de déclarations et de tweets. Stephen Miller, directeur de cabinet adjoint à la Maison-Blanche, avait lui déclaré « Personne ne va se battre militairement avec les USA sur l'avenir du Groenland » et son épouse en avait publié une photo aux couleurs des États-Unis en écrivant « Soon » en légende. L'Europe a bien sûr mis son veto, notamment l'Allemagne ou encore la France qui dénoncent cette situation. Donald Trump a menacé quant à lui il y a quelques jours sur X d'imposer un pourcentage plus élevé aux pays qui iront contre son souhait d'annexer le Groenland. À voir désormais comment la situation évolue. Trump ne parle plus d'acheter le territoire comme il y a 6 ans et son coup de force contre Maduro montre peut-être qu'il a brisé un plafond de verre dans son impérialisme, qu'il est capable de tout, surtout dans le cas de cette possible annexion dont il fait une lubie.
Je te remercie Tom pour ta chronique actu et tout de suite on enchaîne avec l'interview Zoom de Fabien qui reçoit aujourd'hui Alban et Thibault qui nous parleront de la réouverture du cinéma indépendant La Clé.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Eh bien, donc, bonjour, Alban, bonjour Thibault.
Bonjour.
Donc,
bonjour.
Nous allons parler du cinéma La Clé qui vient de rouvrir après toute une histoire. Ça a été assez difficile, je crois. Donc, le cinéma La Clé, c'est un cinéma associatif, militant et engagé. Il a une programmation différente. On ne trouve pas de films commerciaux, mais des films engagés, comme je viens de le dire, des films hors-circuit, des films autoproduits collectifs et des films de catalogue aussi. Pouvez-vous nous le présenter en quelques mots?
Tu veux commencer?
Déjà, on est très contente d'être présent à Radio Campus Paris, qui est une des rares radios associatives de Paris, du coup en tant que cinéma associatif également. C'est un cinéma qui, au-delà de l'expérience collective et militante qu'on a eue en l'occupant et en le sauvant, était aussi un cinéma qui a longtemps diffusé des films rares, et notamment... il s'appelait d'ailleurs Cinéma La Clé Image d'ailleurs, donc des films latino-américains et africains. Et dans cette poursuite-là, du coup, quand le cinéma a fermé en 2018, il y a eu du coup une occupation dès 2019 qui a permis de repenser aussi un autre cinéma, aussi à l'augure de l'époque actuelle, un cinéma qui est plus collectif, tourné vers une organisation horizontale, étudiante et aussi de cinéastes et de aficionados du cinéma pour programmer collectivement et également aussi se former à la projection, par exemple.
Ouais, je pense que c'est ça qui est important aussi à La Clé, c'est de dire que depuis l'occupation de ce cinéma, on a pris en compte l'histoire de ce lieu et aussi on se l'est approprié dans l'illégalité au début. Ce qui nous a permis de parfaitement expérimenter l'espace, le lieu, ce qu'on pouvait en faire, ce qu'on voulait en faire, avec une très grande liberté. Et c'est cette liberté qu'on a justement essayé de garder après, en 2022, lorsqu'on s'est fait expulser. Et effectivement, ça a été une longue lutte. Mais on a gardé le cap et on a réussi à ouvrir un bâtiment, je pense, en gardant la philosophie de base. Et par exemple, de conserver le prix libre, qui était une des choses mises en place en fait avec l'ouverture du squat, de dire on ouvre un lieu et on veut que le cinéma soit accessible. Et maintenant, le prix libre est passé au niveau du CNC.
Et comment on fait ça pour exiger que le prix libre continue à exister dans le format actuel ?
Il y a eu plusieurs rendez-vous qui ont été faits. En fait, on est dans le collectif maintenant. On fait quand même. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui font partie du milieu du cinéma. Et donc, il y a eu aussi plusieurs axes de lutte qui ont été mis en place lors de cette période hors les murs, qu'on l'appelle. Et donc, des rendez-vous au CNC pour faire valoir, en fait, la viabilité du prix libre et dire on peut faire une billetterie dans laquelle la taxe du CNC peut être indexée en fonction des places. Donc c'est un prix libre, mais qui se fait par échelle de 50 centimes.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'occupation et du rachat du cinéma, justement ? Comment ça s'est passé ?
Du coup, l'occupation, elle a été... c'était à la base plutôt une sorte de réunion de plusieurs collectifs, plutôt issus du milieu des squats et du milieu du cinéma alternatif, qui se sont du coup, organisés pour occuper illégalement jour et nuit le bâtiment. Et pendant cette période-là, du coup, chaque soir était proposé à prix libre un film. On a eu, du coup, cette période-là, le soutien de toutes les distributeuristes et réalisateuristes qui sont venus et qu'on remercie chaleureusement, présenter leurs films, nous soutenir. Et donc, cette période-là a duré jusqu'en 2022. En 2022, du coup, il y a l'expulsion le 1er mars et ensuite, un autre volet s'est monté.
Et après, il y a eu la continuité, en fait, où il y avait déjà un projet de rachat du cinéma qui avait lieu lors de l'occupation illégale, basée sur le principe des ZAD, et de se dire cet espace, en fait, y a quand même, on fait partie d'un collectif où on suit l'actualité, on voit un peu ce qui se passe, et le passage, par exemple, de la loi de Casbarian, c'est quelque chose qui criminalise le squat et qui affaiblit grandement ces espaces-là. Donc il y a eu ce projet de fonds de dotation, et en fait, on avait commencé à ouvrir une cagnotte, il y avait déjà des petits dons quand on s'est fait expulser du bâtiment. Cette expulsion qui, en fait, avait lieu parce qu'il y avait des racheteurs, sauf que les acheteurs potentiels, par le levier médiatique, finalement, ont été contraints de refuser, de se retirer de cet achat. Et donc, nous étions...
Mais comment ça, contraints ?
On les avait...
On a envie de savoir les coulisses, là, maintenant que c'est racheté.
En fait, c'était un groupe qui s'appelle le groupe SOS, et finalement, quand on détricote un peu la logique de l'entrepreneuriat social et solidaire, le leurre est finalement assez facile à voir, et il y a eu un travail en fait qui a été fait aussi grâce aux médias de mettre en place et en valeur les actions militantes, et en fait c'était très compliqué finalement pour le groupe SOS de racheter ce bâtiment après, étant donné que nous on avait fait tout un travail qui était de mise en lumière et en valeur de nos actions.
Et puis le groupe SOS, le président du groupe SOS, c'est le numéro 2 de La République En Marche, du coup pour un cinéma indépendant c'était compliqué.
Les cinétracts étaient d'ailleurs très drôles à ce sujet.
Et j'ai été voir les films rêvés donc hier au cinéma. Vous êtes attaché au format donc peu diffusé en salle, au cinéma militant, aux réalisations collectives et autoproduites. Et donc à part ça, quels sont vos critères de programmation, notamment sur les thématiques des films ?
Donc le principe de la clé, c'est que c'est une programmation collective. Chacune, on réfléchit à plusieurs... films qu'on voudrait montrer, on se organise pour trouver les droits et après on se réunit en réunion programmation qui prend souvent plusieurs temps et qui est divisé en plusieurs sessions parce que ça prend toujours plus de temps qu'on ne le croit. Mais généralement, on va dire que on choisit plutôt des films, comme vous le dites, qui sont indépendants, qui sont non commerciaux, en tout cas qui ont terminé leur parcours en salle dans tous les cas.
Il peut arriver. C'est les films de catalogue, on appelle ça.
Voilà, c'est ça. Des films dont on partage les valeurs d'une certaine manière. Donc, plutôt du cinéma qui va être antiraciste, féministe, mais être aussi d'ailleurs, de manière générale, plutôt essayer de privilégier des films qui vont être des films fragiles, des films réalisés par des femmes, par des personnes racisées, par exemple. Et après, donc. Lors de ces réunions collectives, on essaie de tisser des liens entre différents films. Donc là, on va créer des cycles. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose.
Et il y a quand même aussi cette envie de faire la part belle aussi aux films qu'on apprécie. Et donc de collectivement se dire un film, c'est un film qu'on présente. Donc quand on est référent, référente d'une programmation, on s'occupe de toute la chaîne en fait, de ce film. C'est-à-dire que autant faire un film, c'est une aventure collective, autant partager un film à la clé, c'est aussi une aventure collective. Donc, dès qu'on a fini de présenter le film qui nous tient à cœur en réunion de programmation, et en vrai, on fait confiance aux personnes aussi qui proposent les films, il y a tout le parcours qui est de maintenant trouver les droits. Avant, les droits étaient gracieusement donnés, comme le mentionnait Thibaut. Maintenant, on a une grille de programmation, donc c'est 50€ pour un court-métrage. Et en fait, on fait, par exemple, on passe du court-métrage, qui est quand même quelque chose aussi très peu distribué en salle, qui est très difficile à voir.
Sauf dans des soirées spéciales, et c'est très rare.
Oui, voilà. Et en fait, c'est très rare. Et il y a vraiment cette envie de se dire, bon, maintenant, on va montrer des films qu'on ne voit pas. Et les films qu'on ne voit pas, on va aussi les rémunérer. Alors, on est un collectif militant, on n'a pas trop d'argent non plus. Mais déjà, de faire ce geste, de reconnaître le travail qui a été fait. Et voilà. Et donc, maintenant, quand on programme un film, on s'occupe de voir aussi qu'il y ait des personnes à l'accueil, des personnes au bar, des personnes qui s'occupent de la projection. Et potentiellement aussi faire des conversations après le film. En faisant venir les personnes qui ont travaillé sur le film ou des associations en lien avec le sujet du film.
Et par ailleurs, là, progressivement, la clé va accueillir d'autres associations qui vont se former également et devenir membres de la clé et qui ont aussi les clés du cinéma le soir où elles programmeront. Là, par exemple, on est en train de travailler avec les archives LGBT de Paris qui sont en train de se former, aussi avec l'ETNA, qui est du coup un groupe de travail sur la pellicule. En fait, progressivement, ces associations-là pourront également programmer les films qu'elles souhaitent.
D'accord.
Tu voulais oui. Vas-y. Ok, merci. Moi, j'avais une question par rapport aux répercussions que vous-même, individuellement, vous avez pu constater sur vous et ensuite sur les spectateurs, spectatrices, sur l'impact que ça a sur nos imaginaires, de proposer justement des films plutôt marginalisés, qui n'ont pas beaucoup de visibilité. Qu'est-ce que, en tant que consommateur de ces films, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur nos imaginaires ?
Tu veux commencer ? Moi, personnellement, je pense qu'il y a des films qui peuvent déplacer aussi, et là, en l'occurrence, même d'avoir des conversations. Je pense notamment, avant que je fasse partie du collectif, j'étais spectatrice à la clé, et j'étais venue à une séance qu'avait organisée Thibaut, mais je ne le connaissais pas à l'époque, Taking Back the Legislature, et c'était une séance qui était très intéressante, parce que ça parle de comment être militant lorsque le système d'oppression est finalement... totalement débridé, quoi. Et donc, ces façons de communiquer ensemble, en l'occurrence, les militants communiquaient via les jeux vidéo. Et en fait, c'est des choses comme ça. On n'y pense pas, mais finalement, de voir des films qui sont des brèches, en fait. Enfin, il y a vraiment un truc de brèche avec la clé, de se dire, bon, on va montrer les choses dont on ne parle pas. Et après, il y avait des associations qui étaient sur place aussi pour parler de leur situation. Et voilà. Et en fait, c'est des choses, on s'en souvient, parce que c'est vrai qu'on n'est tellement pas amené à voir ça, à entendre ça, que j'espère que ça marque autant que ça m'a marqué.
Oui, et puis c'est vrai que les cinémas différents, on propose d'autres lectures de la société, d'autres approches de la société. Et en tant que collectif plutôt engagé, on va aussi se rapprocher de films qui nous parlent et qui nous ont fait changer. Là, par exemple, on va montrer... le film Coconut Head Generation. Non, d'ailleurs, c'est passé samedi, je crois. En fait.
Non, c'est ce samedi à 14h pour qui veut venir.
Où c'est du coup d'Alain Cassanda sur une association d'étudiants textes qui montrent des films au Nigeria et qui en débattent. Et ça fait aussi assez vite écho avec notre situation. Et on est par exemple aussi en contact avec les réalisateurs d'un film sur l'après-M, qui est un McDo qui a été récupéré et racheté
à
Marseille.
Oui, je connais, ouais. J'ai connu ça. Et qu'est-ce que vous voudriez dire aux auditeurs et aux personnes qui ne connaissent pas la clé pour leur donner envie en fait, de vous découvrir et de découvrir un cinéma alternatif engagé et de venir être client, en fait, venir vous voir?
On est sur une réponse en 45 secondes. Défi.
La clé, c'est un très grand espace. On est vraiment... Nous, on a mené une lutte qu'on estime... assez importante à nos yeux, et maintenant que ce lieu est ouvert, on a envie de faire un passage de relais aussi et de donner cet espace, étant donné que aujourd'hui on a quand même besoin aussi d'échanger ensemble, on a besoin d'espace, et cet espace maintenant est disponible, donc n'hésitez pas à venir.
Voilà, le message est passé. Donc vous pouvez retrouver des infos sur laclerevival.org. Vous retrouverez toute la programmation du cinéma, leurs projets en cours et à venir, les infos pratiques, tarifs, ainsi que leurs tarifs sur le site laclerevival.org. Et n'oubliez pas que la première aide, c'est d'aller voir les films et d'assister aux événements.
Et sur ce, on se fait encore une nouvelle pause musicale avec Leïla Samir et sa musique Beginnings. C'était Beginnings de Leïla Samir. On continue et on termine cette matinale de 19h avec Eloane qui nous parle non pas de cinéma indépendant, mais de gros blockbusters. On parle tout de suite d'Avatar 3.
La matinale de 19h.
Bonsoir Radio Campus, bonsoir Farah. Dans mes chroniques ciné, j'ai souvent l'habitude de passer mes nerfs sur des films français. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de m'atteler à un énorme blockbuster américain pour changer. C'est le troisième volet de sa franchise, il est sorti en décembre 2025. Je parle donc d'Avatar 3 de James Cameron. Alors je sais, je m'y prends un peu tard, on est en janvier 2026 maintenant, mais je me disais que pour fêter sa cinquième semaine d'exploitation, j'allais ouvrir le feu sur tout ce que j'ai trouvé nul dans ce film, comme je sais si bien le faire. Déjà, j'aimerais vraiment parler de sa longueur. Avatar 3 dure 3h15, donc 198 minutes, ce qui équivaut au mandat d'un Premier ministre sous Macron ou d'un appel téléphonique avec ma grand-mère. Et pour le coup, on les sent passer les 3 heures. J'ai même eu le temps de me tourner vers mon mec pour lui dire « Je fais une petite sieste, tu me réveilles quand c'est intéressant. » Et bah, il m'a jamais réveillée. Non, je rigole, j'ai véritablement regardé Avatar 3 dans son entièreté, malheureusement pour moi. Mais du coup, je pense qu'il faudrait revoir notre classification dans le cinéma. On a 3 catégories de films pour l'instant, court, moyen et long métrage, auxquels on devrait ajouter, pour ce genre de film, super méga hyper giga long métrage Pro Max. On pourrait donc vouloir se raccrocher à l'espoir que l'intrigue soit passionnante et justifierait de diviser notre espérance de vie par 4, mais malheureusement pas du tout. C'est la troisième même histoire, pardon, du même méchant militaire qui attaque la même nation autochtone et qui affronte le même White Savior qui, parce qu'il a maintenant la peau bleue et qu'il chevauche un gros dragon orange, se croit légitime de prendre la tête d'une tribu qu'il connaît autant qu'un expat en mission humanitaire. Avatar 3 sous-entend pourtant la nouveauté avec son nouveau peuple et son titre de feu et de cendre, qui devrait plutôt s'appeler, selon moi, de gâchis et d'ennui. En effet, on rencontre le personnage de Varang, une jeune reine hérétique et ennemie de la divinité Eywa, glorifiée par les autres peuples Navi. Elle est sans merci, vengeresse et assoiffée de sang, jusqu'à ce qu'elle rencontre le méchant soldat Quaritch et qu'elle en tombe amoureuse. Voilà, ça devrait être illégal de gâcher un potentiel pareil, et c'est idiot parce que Cameron introduit réellement un peuple différent, avec des traditions carrément surprenantes et atypiques, pour au final tout jeter aux oubliettes. En plus, le peuple échange son soutien aux militaires contre des armes à feu. Si Varang s'était construit toute seule un nerf avec des feuilles de palmier et des bêtes goji, l'intrigue aurait été 1000 fois plus intéressante. Sans oublier que Cameron s'est totalement réapproprié la culture du peuple sud-soudanais pour le design de ses personnages sans jamais les mentionner une seule fois. Il a d'ailleurs sans doute volé le travail d'autres graphistes qui l'ont poursuivi en justice, mais dont chaque affaire a été étouffée. Pour le coup, j'allais dire que l'animation et les univers sont toujours aussi impressionnants, mais si c'est pas vraiment son œuvre, alors ça sert à rien que j'en parle ici. En somme, Avatar 3, c'est beaucoup d'ennuis, beaucoup de mensonges et un montage dégueulasse. Cameron aurait dû s'en tenir au premier, qui suffisait à expliquer sa pseudo-satire de la conquête de l'Ouest. Là, on dirait juste un tonton en repas de famille qui explique pendant 20 minutes ce qu'était le vrai socialisme.
Eh ben c'est dit, merci Éloane. Alors la matinale de 19h se finit ici. Merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices, pour votre écoute. Merci à nos invités du soir, Atem Nafti, Alban et Thibaut du cinéma La Clé. Merci à tous ces incroyables bénévoles de Radio Campus Paris, à savoir Félix, Fabien, Jeanne, Tom, Éloane, d'avoir fait vivre cette émission. Merci à Vaudoucy à la Réal, merci au binôme de choc, Odé Jeanne à la coordination, encore Jeanne hein, qui a fait ce flash info, elle est partout. Et je vous dis à demain pour une nouvelle matinale de 19h. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.